Je ne sais pas ce que je dois faire, je dois chanter ou prêcher. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, j'aime mieux prêcher, chanter. Je crois qu'on a beaucoup de soleil aujourd'hui, il vaut mieux pas gaspiller la journée. Hein. Voilà, béni soit notre Seigneur, hein. Nous sommes là ce matin, toujours au bénéfice de cette parole. Je veux dire comme Pascal, à mon tour de vous saluer les Choletais. C'est une expression pascalienne ça, à mon tour de vous saluer. Donc soyez bénis, j'espère que vous me voyez, ce n'est pas le plus important. Si vous m'entendez, c'est mieux. Et ce matin, ben voilà comme cela vient d'être dit, hein. Donc on est dans ce thème ensemble, ce thème que nous traduisons donc que nous voulons aborder sous forme de la croissance de l'Église. Voilà, parce que ce n'est pas une lubie, ce n'est pas la mode. On ne s'est pas dit, mais tiens, les chrétiens, ils n'ouvrent jamais leur maison. Maintenant, on va leur demander d'en ouvrir parce qu'il est temps qu'ils le fassent. Non, ce n'est pas une mode du tout. Comme cela a été rappelé dimanche dernier, c'est vraiment une réflexion, voilà, mûrement, une réflexion qui a fait son chemin, et puis aujourd'hui, nous croyons que vraiment dans le projet que Dieu a pour cette assemblée, les groupes de maison doivent faire partie vraiment de ce projet, doivent faire partie intégrante de ce projet, parce que nous croyons que vraiment être ensemble, c'est aussi partager des moments, c'est aussi vivre des moments en petits groupes. Ce matin, c'est vrai, je ne sais pas pour vous, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a pu dire bonjour à tous ceux et à toutes celles qui sont dans ce lieu? Vous voyez, personne ne peut lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que si on avait été 10 dans ce lieu, il aurait eu le temps de faire le tour de tout le monde pour dire bonjour? Comme à Cholet, par exemple. Vous voyez, donc nous avons l'avantage et nous bénissons Dieu. Vraiment, c'est un des avantages qu'on ne voudrait pas abandonner. C'est celui de se retrouver comme nous faisons ce matin, ensemble pour le louer, pour l'adorer, le célébrer, lui dire toute notre reconnaissance. Et ça, ça ne va jamais changer. Ça ne va pas changer parce que, voilà, nous avons besoin de nous retrouver ensemble, voilà, par centaines, comme c'est le cas ce matin. Mais il est aussi bon de se retrouver en petits groupes. Et ce matin, je vais poursuivre donc dans ce thème de la croissance de l'Église. La croissance de l'Église. Donc moi, ce que j'aimerais aborder ce matin avec vous, c'est en fait d'abord la croissance spirituelle ou la maturité qui fait que nous devenions justement ces instruments entre les mains de Dieu pour pouvoir être des acteurs de la croissance numéraire ou quantitative. Et ce matin, j'aurais pu prendre plusieurs passages dans le livre des Actes des Apôtres, mais mes yeux et mon cœur se sont arrêtés sur quelque chose qui nous parle à tous et à toutes. C'est ce que Jésus a fait quand il a commencé son ministère. Et il y a des textes qui sont fondateurs que nous allons lire tout de suite. Le texte de Matthieu que vous connaissez bien maintenant, c'est... Ça y est, Matthieu a disparu. Quelqu'un peut retrouver Matthieu? Donc c'est Jésus qui parle, hein. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, on a eu l'occasion, ça a été encore rappelé la semaine dernière, Jésus qui va dire, et moi, donc, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus s'adresse ainsi aux disciples qui marchent depuis pas mal de temps avec lui, pour leur annoncer, bien évidemment, les desseins de Dieu, donc pour l'humanité, ou du moins pour ceux et celles qui vont accepter, qui vont reconnaître Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Donc c'est un texte qui est important parce que c'est la première fois dans le Nouveau Testament où il est fait mention de l'Église. Et cela n'est pas sorti de la bouche de quelqu'un d'autre, si ce n'est de la bouche de Jésus lui-même. Il dit qu'il va bâtir son Église parce que Jésus prend en compte le fait qu'il y a d'autres Églises. Et le mot grec, nous l'avons abordé l'année dernière, il y a d'autres églises, il y a d'autres assemblées. Et Jésus dit qu'il va bâtir la sienne. Et il y a une caractéristique principale à l'église qu'il va bâtir, c'est qu'elle va résister à tout, et en particulier à toutes les forces de l'ennemi, à toutes les forces du diable. Donc c'est un texte qui est important. Et nous voyons que Jésus, avant d'aller sur le bois de la croix, se livrer justement pour cette humanité, pour prendre les péchés de l'humanité, pour réconcilier l'humanité avec Dieu, il va prononcer ce texte que nous venons de lire. J'ai fait une bêtise. Donc je disais, Jésus va dire ces paroles que nous venons de lire. Et nous savons que Jésus va aller sur le bois de la croix, il va porter le péché de l'humanité. Et alors que tous ses ennemis s'attendaient à ce qu'une fois mis dans le tombeau, il n'y ait plus rien qui se passe, la Bible nous dit qu'au troisième jour, Jésus est ressuscité. Jésus est vivant et voici les paroles qu'il va adresser bien évidemment à ses apôtres avant de remonter au ciel. On le lit ça dans Matthieu 28. Voici ce qu'il va dire. Jésus donc va s'approcher de ses disciples et il va leur dire ceci. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voici les paroles que Jésus donne, bien évidemment, à ses disciples, une fois ressuscités d'entre les morts. Et là, Luc, qui n'était pas forcément avec les disciples, mais qui va faire, bien évidemment, une enquête auprès, principalement, je me doute, des apôtres qui ont marché avec Jésus. Et alors là, lui, il va rapporter ses paroles dans le livre des Actes, au chapitre 1er, où il va dire, voilà, Jésus, voici ce que Jésus va dire à ses disciples, alors que Jésus est en train de parler avec eux en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et là, parce que les disciples sont des anciens juifs, et ils vont demander à Jésus, alors Jésus Seigneur, dis-nous, à quel moment est-ce que le royaume d'Israël va être rétabli? À quel moment le royaume des cieux va être manifesté sur la terre? Et Jésus de leur répondre, ce n'est pas à vous de déterminer les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Il va dire, mais vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Voyez, il y a une progression dans ce que Jésus partage avec ses disciples. Là, Jésus est ressuscité maintenant, avant maintenant de remonter au ciel, de retourner dans sa gloire, comme lui-même il l'a si bien dit dans Jean 17, « Père, merci parce que tu vas me redonner la gloire que j'avais avant de prendre justement cette enveloppe humaine pour venir sur la terre, te réconcilier avec l'humanité. » Jésus va dire, « Mais voici, tu me redonnes la gloire. » Et là, il nous dit ici à ses disciples, « Vous allez recevoir une puissance. » Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Jésus annonce ici déjà la multiplication. Il est en train d'annoncer à des personnes qui dans leur esprit, et toi bien sûr, par rapport à leur tradition, à leurs mœurs, par rapport à cela, ils se disent le Dieu qu'ils connaissent est un Dieu qui leur est exclusif. Et là Jésus leur annonce, mais écoutez, vous allez être mes témoins à Jérusalem. Là ils ont dû se dire, ah ben là ça va, oui. Jérusalem, c'est bien. C'est encore chez nous, voilà. Même si on est galiléen, bon, on peut quand même composer avec voilà, les gens de Jérusalem. Et là, il va leur dire dans toute la Judée. Ok, Jésus, tu vas t'arrêter là ou pas? Ah ben non, même chez les Samaritains que vous n'aimez pas. Vous serez mes témoins aussi. Mais encore plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre, Jésus annonce que l'Église ne va pas s'arrêter à Jérusalem. Jésus est en train d'annoncer que l'Église va s'étendre dans le monde entier. Et moi, je ne vais pas vous rappeler ce qui a été dit la semaine dernière, à juste titre. Nous sommes devenus en Jésus-Christ ces pierres vivantes. Nous formons l'Église. À quelque endroit que nous soyons justement rassemblés, nous formons l'Église. Jésus annonce ce mouvement. Mais que va faire Jésus au début de son ministère? Là, nous venons de lire des textes que Jésus partage du moins avec ses disciples alors qu'il marche déjà pendant plusieurs années avec Jésus. Et regardons au début du ministère de Jésus, et je vais vous parler maintenant de ce premier groupe que Jésus va mettre en place. On va lire un texte dans Luc 6. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Jésus commence son ministère. La Bible nous dit que ce jeune homme de 30 ans, il va quitter Nazareth, il va arriver là au Jourdain, il va trouver Jean-Baptiste, il va se faire baptiser. Et là, la Bible nous dit que le ciel s'ouvre au moment où il prie et il y a une voix qui se fait entendre du ciel qui prononce ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et la Bible nous dit qu'après ces paroles commence l'épopée du ministère de Jésus. Jésus est conduit dans un premier temps dans le désert où il va faire face à l'ennemi, il va faire face à Satan dans les tentations les plus rudes. C'est vrai qu'elles nous sont rapportées avec beaucoup de simplicité dans la Bible, mais c'était des tentations rudes parce qu'elles sont spirituelles. Elles n'étaient pas physiques, les tentations que Jésus va vivre. Et la Bible nous dit que Jésus en sort vainqueur du désert, et là il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et sa renommée commence à se répandre partout où il va passer. Il commence par être connu dans tout le pays, comme étant un homme qui est différent de tous les autres, comme étant quelqu'un qui est là pour secourir, qui est là sans exception de personne. Il va vers tous ceux et toutes celles qui ont besoin de lui. Et là, la Bible nous dit qu'alors que quelques personnes, on nous parle ici d'une foule de disciples, les gens suivent Jésus, et puis un jour, Jésus va passer un temps dans la prière devant son Père, et là, il va s'opérer quelque chose de très important. Son Père va lui demander de choisir 12 disciples parmi la foule de disciples qu'il va appeler apôtres. Et j'aimerais qu'on puisse s'intéresser à ce premier groupe. Il ressemble fortement à un groupe de maisons, ce premier groupe que Jésus va mettre à part. Un groupe de maisons, certes, itinérant. Bon, il n'y a pas des personnes qui viennent du Québec ici. C'est à peu près ça, parce que itinérant au Québec, c'est SDF. C'est un groupe que Jésus va se mettre à part. C'est quand même étonnant. Alors que Jésus vient pour réconcilier toute l'humanité avec Dieu, mais Jésus va se choisir un groupe d'individus. Les enseignants ici seront d'accord avec moi, si je ne m'avance pas trop, en disant qu'il est plus facile de travailler dans une classe où il y a moins d'élèves, plutôt que dans une classe où il y a beaucoup d'élèves. C'est plus facile de passer un message alors qu'on a une classe d'à peu près une quinzaine d'élèves, plutôt qu'une classe, je ne sais pas, de 40, 50 élèves. Moi, je me rappelle quand j'étais en troisième, ça m'a marqué, et nous étions 16 élèves dans ma classe. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que le prof de maths, en 2 heures de cours de mathématiques, il avait la possibilité d'envoyer tout le monde au tableau. Et ça, ce n'est pas possible dans une classe de 40 élèves. Ce n'est pas possible dans une classe, même de 30 élèves, ça devient compliqué. Mais avec 16 élèves, ils pouvaient consacrer 5 minutes à chacun pour pouvoir nous envoyer tous au tableau, faire un exercice, résoudre un exercice. Et je peux vous dire qu'à la fin de l'année, sur les 16, nous avons tous eu le brevet. Parce qu'il y avait un temps de qualité que les enseignants pouvaient passer avec nous. Plutôt que de passer leur temps peut-être à vouloir, je ne sais pas, ordonner la classe, mais il était facile, quand vous êtes 16, vous avez du mal à faire le cake, vous avez du mal à faire l'idiot. Parce que tout le monde vous voit. Et oui, par ailleurs, j'ai connu aussi, quand j'étais la classe avant, en quatrième, nous étions, je crois, une quarantaine. Eh bien oui, mais on était des bons idiots. Et on savait le faire, ça. Jésus a toute la foule des disciples qui le suivent. Et là, il dit, je choisis 12. Parce que Jésus, vous savez, dans n'importe quel groupe, il y a toujours des objectifs qu'on lui fixe. Aujourd'hui, nous avons des groupes de parole, nous avons des groupes de soutien, nous avons des groupes de personnes qui souffrent de la même maladie, nous avons des groupes de personnes peut-être qui voient les choses de la même manière, nous avons même des groupes d'études bibliques, nous avons le GBU par exemple. Jésus choisit 12 parmi les centaines certainement des disciples qui le suivaient. Et il est important de regarder ensemble. Pourquoi est-ce que Jésus va choisir les 12? Parce qu'en fait, Jésus a un projet. Jésus a un projet. Jésus est venu du ciel avec un objectif précis. C'est celui de réconcilier l'humanité avec Dieu. Mais Jésus est seul. Jésus est limité dans la peau d'un être humain, dans la chair d'un être humain. Peut-être que du ciel, d'où il venait, il aurait pu faire comme il avait envie. Mais dès lors que Dieu avait choisi qu'il devait se manifester dans son Fils au milieu des êtres humains, en ce moment-là, Jésus était limité. Autrement dit, Jésus va mettre à part un groupe auquel il va consacrer un temps de qualité. Un groupe qu'il va conduire dans une croissance spirituelle, dans la maturité spirituelle. Parce qu'il sait qu'un jour, c'est à ce groupe-là qu'il va laisser la charge de poursuivre ce que lui-même avait commencé. Nous voyons cela, bien sûr, dans le texte de Marc, qui rapporte à peu près la même chose que Luc nous dit sur le choix des disciples. Marc nous dit, il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Donc Jésus a un objectif. Tout comme pour n'importe quel groupe, je viens de le dire, il y a un objectif ou plusieurs d'ailleurs. Jésus a des objectifs et l'un des objectifs principaux, c'est qu'il doit former ces gens-là pour qu'ils soient, eux, capables de faire ce que lui fait ou de ce que lui a fait. Donc, il va choisir 12. Peut-être le nombre est-il limité, on va dire, par rapport à une humanité. Je ne sais pas à combien d'individus elle s'est levée à l'époque. Mais 12, ce n'est pas possible, Jésus. C'est insignifiant, 12. Mais Jésus sait, comme je viens de le dire, qu'avec un petit groupe, il est plus facile d'être efficace qu'avec un groupe beaucoup plus nombreux. Il y a bien sûr des avantages que nous avons à nous rassembler dans ce lieu ce matin. Mais nous savons aussi que nous ne pouvons pas avoir des temps de qualité. Oh, nous venons, nous adorons Dieu de tout notre cœur. Béni soit son nom. Nous l'élevons, nous l'exaltons. Nous venons pour lui rendre un culte agréable. Nous venons pour le célébrer. Mais seulement nous savons que la vie chrétienne, comme cela nous a été rappelé la semaine dernière, nous devons nous tourner vers Dieu, cette relation verticale, mais il y a aussi la relation horizontale. La première relation horizontale concerne ceux et celles qui nous sont directement proches, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes frères et sœurs. Et la deuxième, c'est ceux et celles qui sont à l'extérieur que nous ne connaissons pas. Autrement dit, la vie chrétienne, elle n'est pas suffisante, du moins elle n'est pas complète, elle n'est pas accomplie lorsque nous sommes essentiellement tournés vers Dieu. Parce que, en fait, le fait de se tourner vers Dieu, c'est pour puiser en lui les ressources nécessaires pour pouvoir avoir des relations véritables avec ceux et celles qui nous entourent. J'aime à donner cette image qui n'est pas doctrinale, ça c'est l'évangile selon Ulrich. J'aime bien prendre l'image de la croix. Je dis le bois vertical, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Et le bois horizontal, c'est la relation que nous avons avec les autres. Et vous allez voir, hein, ça c'est encore mon évangile à moi. C'est que le point de rencontre des deux bois, des deux morceaux de bois, c'est là où se trouvait le cœur de Jésus. Nous vivons des moments extraordinaires en ce lieu. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Mais comme dans n'importe quelle famille, même dans une famille humaine, nous savons que lorsque nous commençons à être 5, 6, moi je peux vous dire, je sais de quoi je parle, pas pour moi-même, mais pour un de mes frangins. Il a eu 50 ans au mois de décembre dernier. Il a 12 gosses. Il en a 12. Même si lui les appelle les apôtres. Je crois que parmi les apôtres, il n'y avait pas de femmes. Rien à voir avec la misogynie. Parce qu'il y a plus de filles que de garçons. Mais je sais, quand il y en a seulement 3 qui viennent chahuter à l'oreille de leur père, eh bien oui, mais ils perdent parfois. Arrêtez! Eh bien oui. Eh oui, là, il n'y en a que 3 là, frangin. Et s'il y en a un qui se rajoute, un autre. Et s'il y en a 6 qui viennent chahuter, comment tu fais? Eh bien, tu te retrouves dans une maison, je ne sais pas comment on peut l'appeler, à faire un séjour quelque part. Ben oui. Les petits groupes permettent des temps de qualité. Et nous voyons que Jésus, par exemple, il va avoir besoin de mettre à part ces hommes à qui il va confier son œuvre. Pourquoi? Pour passer des temps de qualité avec eux. Pour assurer quoi? Une proximité, comme Marc nous le dit, pour qu'il soit avec lui, pour pas qu'il soit pour lui, mais avec lui, pour qu'il voit comment lui vit, pour qu'il voit comment lui manifeste les choses de Dieu. Pour pas que ça soit théorique en disant, ah oui, Jésus, il fait ci, non, il le vivait. C'est pour ça que je dis que c'était un groupe de maisons itinérants. Ils n'étaient jamais au même endroit. Ils allaient là où le Saint-Esprit les envoyait. Et donc Jésus a voulu avoir une proximité beaucoup plus grande avec ce groupe restreint, plutôt que la foule des disciples qu'il y avait. Jésus savait aussi qu'il fallait que ce petit groupe reçoive une formation. Une formation qui va pouvoir leur permettre de grandir spirituellement. Parce que vous savez, la plupart de ceux que Jésus a choisis, ce n'étaient pas des gens calés comme Paul, hein. Vous savez, Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Ses deux compagnons, Jacques et Jean, étaient également des pêcheurs de poissons. Il y avait un peu Matthieu qui était un peu collecteur d'impôts. Mais ce n'étaient pas des gens de grande instruction. Donc il a fallu qu'ils soient avec Jésus, qu'ils soient au bénéfice des enseignements de Jésus, qu'ils soient au bénéfice de la présence de Jésus. Continuellement, ils étaient avec lui tout le temps. Ils mangeaient la même chose, ils buvaient la même chose. Et c'était comme ça le mode du discipulat à l'époque. Quand on était disciple de quelqu'un, on vivait sous sa discipline. C'est ce que ça veut dire en fait. Disciple, ce n'est pas juste dire « je suis chrétien ». Non, c'est plus, c'est vivre sous la discipline de Jésus-Christ. Jésus savait que des gens qui étaient venus de toutes parts, qui n'étaient pas de la même famille, pour qu'ensemble ils puissent perpétuer son œuvre, il fallait qu'ils apprennent à communier ensemble. Il fallait qu'ils apprennent à développer la communion fraternelle. Et je sais que la communion fraternelle, elle est encore plus aisée là aussi, au sein d'un petit groupe plutôt qu'au sein d'un grand groupe, d'un groupe beaucoup plus nombreux. Jésus sait qu'il doit faire de ses hommes des leaders, des outils dans la moisson de son Père. Et bien donc, il les met à part pour les préparer. Donc, les groupes de maison ont des objectifs. Nous n'avons peut-être pas l'objectif que Jésus avait avec ses disciples. Parce que lui avait justement à les amener à pouvoir perpétuer son œuvre. Mais nous, dans ce que nous voulons mettre en place, c'est de pouvoir permettre justement, bien évidemment, ce rapprochement des chrétiens. C'est de pouvoir permettre justement que les chrétiens se retrouvent entre eux, que les chrétiens échangent entre eux, que les chrétiens communiquent entre eux, que les chrétiens se soutiennent. Parce que quand on dit soutenez-vous les uns les autres, ben oui, frères et sœurs, il ne faut pas que la vie chrétienne elle soit théorique. Parce que c'est simple quand nous venons le dimanche comme ça. Nous adorons Dieu, pendant 2 heures nous sommes là, et ensuite quand le culte est fini, nous allons... Non, ce n'est pas ça vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est se confronter aux autres, frères et sœurs. C'est comme ça qu'on grandit. Vous savez, moi j'ai travaillé avec une femme qui était fille unique. Elle-même, elle connaissait ses défauts. Elle disait, mais tu sais, Ulrich, j'ai jamais eu un frère ou une sœur à qui me confronter. Tellement j'étais seul que mes parents me donnaient tout. J'étais une fille gâtée. Et c'est vrai qu'elle avait du mal dans ses relations avec les autres. Parce qu'elle ne savait pas faire. Mais où on apprend à avoir de bonnes relations? C'est avec les autres. C'est en se frottant aux autres. C'est en fréquentant les autres. En fréquentant d'autres enfants de Dieu, en se retrouvant avec eux, en priant ensemble, en se confiant, en se soutenant dans la prière. Ici, nous avons du mal à le faire. Oh, nous, on aimerait bien le faire, mais vous savez bien, même si on fait tout notre possible, ce n'est pas sûr qu'on puisse satisfaire tous les chrétiens en 12 mois, par exemple, de l'année. Ce n'est pas possible. Parce que soit on ne fera plus que les entretiens pour vous écouter, et on viendra vous donner... des messages abracadabratesques, voilà. Non, mais c'est vrai. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Pierre, par exemple, lorsque l'Église a commencé par se constituer, il y a des défis qui se mettent là en place. Il y a la distribution des biens alimentaires et autres qui doivent se faire. Et là, ils se rendent compte d'une chose. Ils se disent, mais non, nous, on ne peut pas le faire. Parce que si on le fait, il y a un risque que le message de l'Évangile prenne de la lanterne. Et nous avons besoin de prier, de chercher la face de Dieu. Nous avons besoin de rechercher la face de Dieu pour avoir des messages à propos, pour abreuver le peuple de Dieu, pour que lorsqu'ils se retrouvent dans les maisons, ils poursuivent dans ce qu'on leur donne pour pouvoir maturer spirituellement, pour pouvoir grandir spirituellement. Et c'est ce que Jésus a voulu faire dans un premier temps avec les disciples. C'est pour cette raison que pendant longtemps, jamais Jésus ne leur a demandé de faire quoi que ce soit. Jamais. Il ne leur a pas demandé de faire quoi que ce soit. C'est au bout d'un certain temps, quand il a vu qu'ils étaient enfin prêts, à peu près prêts, qu'il a commencé à les envoyer. Et vous savez par qui il a commencé? Par les 12 apôtres. Et ensuite, il a envoyé les 70. Parce qu'il les a d'abord formés. Il y a eu un groupe. Ils ont vécu ensemble. Et quand on vit ensemble, je peux vous dire, frère et soeur, c'est pas des choses... Moi, je me rappelle, quand je me suis converti, mais pourquoi il passe aussi vite le temps? Quand je me suis converti, je me rappelle, je suis arrivé à Limoges pour poursuivre mes études, tranquillement. J'avais mon plan dans ma tête qui avait commencé à échouer déjà parce que je voulais faire de la géologie pour travailler dans le pétrole dans mon pays. Et puis, je n'avais pas eu une place dans une fac en géologie. Même les Bretons m'avaient refusé. Vous vous rendez compte? Même Brest n'avait pas voulu de moi. Je leur avais dit, écoutez, je ferai même de la géologie marine. Ils m'ont dit, non, on ne veut pas de toi à Brest. Tu n'as pas une tête de Breton. Et vous savez quoi? C'est les gens de la porcelaine qui m'ont accepté. Et puis là, j'arrive à Limoges. Et puis, je me convertis. Et quand je me convertis, bien évidemment, je découvre qu'il y a un groupe de chrétiens étudiants qui se réunissaient à l'époque tous les mercredis soirs. Donc, le groupe s'appelait le FEU, Foyer Évangélique Universitaire. Et alors, moi, j'ai intégré ce groupe. Et pendant plusieurs mois, tout le monde croyait que j'étais chrétien. J'aurais pu être un bon loup. Hein. Tout le monde croyait que j'étais chrétien. Mais je peux vous dire une chose, frères et sœurs. C'est dans ce groupe que j'ai appris à régler ma vie. C'est dans ce groupe que j'ai appris, par exemple, qu'un chrétien ne couche pas n'importe comment. Parce que j'étais avec des gens qui vivaient cela. Ce n'étaient pas des théoriciens, parce que c'était des chrétiens. Je n'avais pas forcément reçu un message du haut de l'estrade me disant, par exemple, « Eh bien, écoutez, il faut que vos vies soient comme... » Non, en les voyant vivre, eux, je posais des questions en disant, « Mais pourquoi ? Moi, je venais d'un monde où on faisait tout n'importe comment. » Et là, je les vois, eux, qui se respectent. Ils sont gênés, « Mais c'est quoi vos trucs, là ?» Ils me disent, « Mais non, mais il aurait que c'est comme ça quand on est chrétien. »« Ah bon ?» Et oui, on apprend des choses. C'est là, dans ce groupe-là, où nous avons appris, après les réunions, on avait du mal à se quitter. Et ça se voit, parce qu'à la fin des réunions, on allait toujours manger un kebab. Quand je retourne à Limoges, le kebab où on allait souvent, le gardien qui me voit, « Comment tu vas ?» Je dis, « Mais regardez comment je vais. » On allait, on avait du mal à se quitter. La réunion était terminée, on allait, on se balade, on fait les bords de Vienne, on restait là jusqu'à 24 heures, 1 heure du matin, on était bien ensemble. Et je peux vous dire que de ce groupe, il y a des ministères qui se sont levés. Je ne suis pas le seul. Il y a Christian qui est en formation pastorale à Limoges. Il y a Alain qui est pasteur en région parisienne. Il y a Gaspard qui est conducteur de louanges dans la région parisienne. Il y a Steven qui est pasteur de jeunesse à Hillsong en région parisienne. Il y a des ministères qui se sont levés. Dans ce groupe où nous étions tellement unis. C'est là que j'ai appris la vie chrétienne. Parce que je ne pouvais pas, même si les messages du haut de l'estrade tous les dimanches étaient importants, mais ils étaient insuffisants pour que j'apprenne la vie chrétienne pratique. Mais comment je peux apprendre la vie chrétienne pratique? Est-ce que vous donnez des livres à vos enfants pour qu'ils apprennent la vie? Non, vous leur dites par rapport à votre expérience. C'est quand vous êtes avec des gens qui ont vécu les choses que vous apprenez aussi comment les choses se passent. C'est comme ça que j'ai grandi. Dans ce groupe. Et puis, il y a eu d'autres groupes de maisons. La première fois que j'ai prêché, c'était dans un groupe de maisons. Heureusement que vous n'étiez pas là. Hein. Tant mieux pour vous, d'ailleurs. Parce que je ne sais plus ce que j'avais dit. Je ne sais plus. Le pasteur avait demandé au responsable du groupe de maison que ce serait bien que de temps en temps, il me laisse prêcher. Oh, je n'avais pas fait fuir tous les membres du groupe, mais moi-même, je suis incapable de vous dire aujourd'hui ce que j'avais dit en ce temps-là. Nous étions tellement bien. Les groupes de maison, ce n'est pas pour supprimer. Même dans une famille naturelle, nous savons que lorsque nous devenons tellement nombreux, nous ne pouvons plus habiter dans la même maison. D'ailleurs, quand on se multiplie, les enfants, ils prennent leurs appartements, leurs maisons, oui ou non. Mais on est content de se retrouver à Noël, oui ou non. Mais notre Noël, à nous, c'est chaque dimanche. Nous faisons la fête chaque dimanche. Cela ne nous prive pas de nous retrouver en semaine en petit groupe. Cela ne nous empêche pas de nous retrouver les uns avec les autres. Est-ce que les groupes de maison, ça va être seulement pour les gens, peut-être, qui n'ont pas de famille, les gens qui... Non, au contraire, on a envie que ceux et celles qui sont de cette église, peut-être depuis des dizaines d'années, des décennies, qu'ils puissent aussi transmettre, que ce soit un lieu où il y a une transmission. Comment on peut connaître l'église? Quelquefois, nous disons, mais oui, mais lui, il ne connaît pas. Hein. Mais comment voulez-vous qu'il sache? Il n'y a personne pour lui dire. Comment voulez-vous? La personne ne peut pas tout imaginer. C'est dans la transmission, c'est dans les fréquentations. Moi, je vois combien j'enrichis ma connaissance dans l'histoire de cette église avec les rencontres que j'ai avec les anciens. Je vais vers eux parce que j'ai envie de connaître l'histoire de cette église, parce qu'elle m'intéresse, parce que je ne suis pas celui qui dit « je suis d'une autre génération ». Non, moi, je m'inclus dans la génération de ceux qui ont fondé cette église. Et je suis là parce que eux, ils ont commencé. Et ce n'est pas lorsque nous sommes plus de 400 comme nous le faisons ce matin, que nous pouvons partager ces choses-là. Elles peuvent être partagées de temps en temps du haut de l'estrade pour rappeler des choses, mais ce n'est pas suffisant. Jésus a pris, et même au sein de ce groupe des 12, qu'est-ce que Jésus a fait en fonction de l'objectif qu'il avait, parce qu'il savait qu'il allait confier une responsabilité beaucoup plus importante à Pierre, Jacques et Jean. Vous remarquerez qu'à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, Jésus ne prendra que Jacques et Pierre, Jacques et Jean. Jésus a besoin que Pierre, Jacques et Jean voient la gloire de Dieu alors qu'il est là sur la montagne de la transfiguration. Il est là avec Moïse et Élie qui le rejoignent. Ils ont besoin, et là, la nuée va les envelopper et la voix de Dieu va retentir pour ajouter quelque chose à ce qu'ils n'avaient pas dit lorsque Jésus a été baptisé au Jourdain. Il va reprendre la première partie en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé » et cette fois, il va ajouter « Écoutez-le ». Lorsque Jésus va agoniser, lorsque Jésus sait que le jour approche, le jour de la croix approche, il va à Gethsémané avec ses disciples, ils sont nombreux, mais il ne prend que Pierre, Jacques et Jean pour dire « Venez avec moi, priez ». Est-ce que cela vous étonne aujourd'hui que Pierre, Jacques et Jean aient eu une part importante dans l'église à Jérusalem? Non. Parce qu'il voulait les préparer. C'est au sein de ce petit groupe que Jésus a tout fait. Mais vous remarquerez que Jésus ne s'adressait pas aux disciples seulement au sein du petit groupe. Il parlait en plénière, comme on le fait ce matin. Il parlait à tous les disciples. Et vous savez aussi qu'il y en avait qui étaient des vénards. En fait, c'était qui? Les douze. Parce qu'à chaque fois que Jésus disait quelque chose en public, eux n'avaient pas compris, qu'est-ce qu'ils faisaient en apartheid? En fait, Jésus, dis-nous un peu. C'est ça le rôle du petit groupe aussi. C'est pour aller en profondeur dans la parole. C'est pour ça que les groupes de maison, ce n'est pas un lieu où on va faire tout et n'importe quoi. Non, c'est le prolongement de l'église. C'est pour que les choses que nous n'arrivons pas à approfondir le dimanche, parce que le temps nous est compté, je vois dans vos yeux que vous commencez à vous fatiguer, eh bien à ce moment-là, eh bien quand vous le trouvez dans les groupes de maison, eh bien vous approfondissez. C'est pour cette raison que les leaders ont été formés. C'est pour vous permettre justement d'avoir des hommes et des femmes qui vont vous aider. Au sein de ce même groupe, comme je viens de dire, Jésus a encore dégagé trois, Pierre, Jacques et Jean. Vous vous rappelez aussi, lorsque Jésus va être abordé par Jaïrus, le chef de la synagogue, alors qu'il est en chemin, il est en route, quand il arrive, les gens sont en émoi, en train de pleurer chez Jaïrus. L'enfant est mort, la fille est décédée. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va demander à tout le monde de sortir. Il va autoriser Jaïrus et son épouse, ainsi que Pierre, Jacques et Jean à l'accompagner. Les neuf autres étaient où? Dehors. Est-ce que c'est parce que Jésus aimait plus Pierre, Jacques et Jean? Non! Parce qu'il voulait avoir une certaine relation avec eux qui leur permettrait justement d'assurer les fonctions qu'il devrait assurer après sa mort, après sa résurrection et son retour au ciel. La croissance. Jésus a pris ce groupe dans un premier but pour leur croissance spirituelle, leur maturité spirituelle. Et vous savez, ils étaient tellement matures que quelquefois ils venaient à se demander ah ben, lequel va être assis à droite et à la gauche de Jésus. Et Jésus, ces problèmes, Jésus les traitait où? En groupe, là, avec les douze. Il va leur dire, mais non, s'il y a quelqu'un qui veut être grand, il faut que ce soit celui qui serve tous les autres. Et la deuxième chose, c'est que Jésus maintenant va s'intéresser donc à la croissance numéraire. Maintenant qu'il a mis, il a formé des hommes, il les a préparés pour cela, il va s'intéresser maintenant à la croissance numéraire. Et vous voyez que dans les textes que nous avons lus, quand Jésus, le premier que nous avons lu, Jésus dit « Je bâtis mon église » dans Matthieu 16, et dans Matthieu 28 où Jésus dit « Allez-y, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Là, maintenant, vous savez à quelles personnes il s'adresse, parce que Jésus les avait déjà choisis. Il est en train de s'adresser à des personnes qu'il a formées spirituellement, à des personnes qu'il était en train d'édifier spirituellement, de bâtir, de construire spirituellement. Il est en train de s'adresser à des personnes qu'il était en train de changer de mentalité, parce que la mentalité qu'ils avaient ne pouvait pas leur permettre de rentrer dans cette croissance numéraire. Pourquoi? Parce que, vous savez que la croissance implique qu'on accepte parfois des choses qui nous dépassent. Et nous savons tous qu'une plante immature, si elle porte du fruit, elle va mourir, oui ou non. Jésus savait que s'il laissait les disciples comme quand il les avait pris, il ne pouvait pas perpétuer son œuvre, il ne pouvait pas perpétuer son action. Alors là, après donc cette formation de croissance spirituelle et de permettre aux disciples d'avoir une communion fraternelle entre eux, Jésus va passer à la deuxième phase, celle de la croissance numéraire. Et dans la croissance numéraire, on va lire maintenant, Jésus est retourné au ciel. Maintenant, on voit ses disciples que Jésus a laissés. On regarde dans Actes 5 ce qui va se passer. Voici ce que la Bible nous dit. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand il dit d'enseigner là, ça concerne quand même principalement les chrétiens, mais d'annoncer la bonne nouvelle, ça veut dire que même dans les groupes de maisons, il y avait quoi? Des hommes et des femmes qui n'étaient pas convertis. Fallait leur annoncer le message, la bonne nouvelle. C'est pour cette raison que les groupes de maisons ne sont pas de petits milieux sectaires où nous allons être entre nous. Non, ce sont des groupes qui vont justement se tourner vers l'extérieur aussi. Vers l'extérieur aussi. Le nombre ne cessait d'augmenter. Ça dit que là maintenant on est dans le numéraire. Pendant longtemps avec Jésus, c'est comme si Jésus n'était pas intéressé d'abord par le nombre quand il était avec les disciples. Mais bien sûr que si, mais il était en train de s'investir dans les disciples. Il était en train lui-même de s'investir parce qu'il savait que ceux qui allaient faire le nombre, ce n'est pas lui, mais ce seraient ses disciples. Le nombre augmentait et les apôtres se retiraient. Vous savez, là les apôtres avaient été en train d'annoncer la parole au temple. Ils vont être arrêtés par les religieux, par le Sanhédrin. Ils vont être mis en prison. Et là, il y a un ange qui va venir les faire sortir. Et l'ange va leur dire quoi ? Retourner au temple et annoncer la bonne nouvelle de cette vie. C'est extraordinaire. Et ils vont retourner. Et regardez comment ils retournent. Oh non, mais Jésus, nous avons été encore maltraités. Non ! Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir comment été jugés dignes de subir des outrages. Pourquoi ils sont heureux ? Parce que dans la formation spirituelle de la croissance, Jésus leur avait dit quoi ? Il leur avait dit que « Heureux soyez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom et de ma parole. » C'est pour ça qu'ils n'ont pas inventé. Ils sont heureux parce qu'ils vivent ce que le maître leur a dit. Ils sont en train d'expérimenter maintenant leur maturité spirituelle. Ils se disent « Mais oui, finalement ce n'est plus ça qui va nous faire abandonner parce qu'on est confronté à une épreuve, on va dire « Ça y est, on va arrêter. » Non, au contraire, on est joyeux. Et chaque jour dans les temples, il ne cessait. Et dans les maisons, il le faisait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque. Si on est immature, on ne peut pas supporter la croissance numéraire, frères et sœurs. Pour une simple et bonne raison. C'est qu'on aura tendance à se replier sur soi-même. Il n'y a aucun jugement. Et je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Vous savez qu'il y a des gens qui disent, par exemple, ils ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils ne veulent pas être embêtés, ils ne veulent pas se réveiller la nuit, ils ne veulent pas entendre les cris d'un petit bout de chou comme ça qui n'arrête pas de crier toute la nuit parce qu'on ne sait même pas ce qu'il a, c'est parce qu'il a fait popo, c'est parce qu'il a mal quelque part, c'est parce qu'il a envie de manger ce glouton de bébé, on ne sait pas pourquoi. Les gens ne veulent pas de ça. Donc ils disent, mais moi, je n'ai pas envie de m'embêter avec tout ça parce que mes copines m'ont raconté. Hein? Dis donc, le martyr qu'elles souffrent avec leurs gosses. Alors moi, non, je n'ai pas envie. Vous voyez, et c'est un choix qui est respectable. Mais quelquefois, on peut être comme ça dans la vie chrétienne. On peut refuser la croissance. On peut refuser la multiplication des âmes. Simplement parce qu'on a envie d'être tranquille. Parce qu'on n'a pas envie que les choses changent. Parce qu'on n'a pas envie que notre monde habituel, oh, bouge d'un iota. On aime bien. On connaît sa place, on a ses habitudes. Mais je crois que lorsqu'on devient adulte, c'est pour cette raison que Dieu a voulu que c'est quand on devient adulte, en fait adulte, voilà, au niveau de la reproduction qu'on peut avoir des enfants. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux, pour s'adresser bien sûr à ces chrétiens, convertis, du moins ces juifs convertis, il va s'adresser à eux qui avaient du mal à allier leur ancienne tradition avec la grâce et le nouveau régime venus avec Jésus, voici ce qu'il va leur dire. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous avez remarqué que tous les enfants sont quasiment pareils. Ils sont égocentriques. Parce que ce qui intéresse les enfants, ce n'est ni plus ni moins qu'eux-mêmes. Et c'est une caractéristique de l'immaturité. On ne peut pas condamner un enfant parce qu'il ne s'intéresse qu'à lui-même. On serait plus dur avec l'enfant si il devient adulte et qu'il continue à avoir le même comportement, le même caractère. C'est ce que la Bible nous dit. Attention, nous devons être des enseignants. Des enseignants pas pour être pasteurs. Quand on dit ça aux chrétiens, non. C'est que nous aussi, nous devons être des hommes et des femmes qui transmettent. Pourquoi? Parce que Jésus est le premier. En fait, c'est la première semence que Dieu a envoyée sur la terre. Dieu voulait un grand nombre d'enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa semence du ciel sur la terre. Et cette semence, la Bible nous dit quoi? Qu'elle a été enterrée, elle a été plantée, oui ou non? Et quand elle est ressuscitée, la Bible nous dit qu'elle n'est pas ressuscitée toute seule. Elle est ressuscitée avec beaucoup de frères et de... Et voici l'exemple ce matin, nous sommes là. Nous sommes ressuscités avec lui. Frères et sœurs, simplement pour conclure que, en disant que notre maturité a besoin des éléments concrets, la première chose c'est que nous devons nous appuyer sur la personne de Jésus. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean 15, c'est un passage qui est très bien connu des chrétiens. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voici, c'est ce que Jésus dit. Quelqu'un qui est mature, ce n'est plus quelqu'un qui fait comme il a envie, comme bon lui semble. Non, c'est quelqu'un qui dit « Je suis attaché à Jésus. Je suis avec Jésus. » Non pas pour satisfaire d'abord mes propres désirs, mais pour faire en sorte que je sois un instrument. Comme ceux qui m'ont précédé l'ont été en leur temps. Je veux être un instrument. Je veux être quelqu'un qui est un multiplicateur. Je veux être quelqu'un qui va participer à la croissance. Je veux être quelqu'un qui va me mettre au service, bien évidemment, du Seigneur Jésus et de son Église. L'Église, c'est l'œuvre de Jésus. Je vous répéterai toujours ce mot. Jésus dit, je bâtirai mon Église. L'Église n'appartient pas à un pasteur. Cela a été rappelé encore hier. Même si par extrapolation, nous disons toujours, ce qui n'est pas un péché, viens à mon Église. Non, l'Église appartient à Jésus. Et les facteurs de la croissance nous ont également été rappelés la semaine dernière. Dans Actes 2, à partir du verset, je crois, 35 au verset 41, où la Bible nous dit que ceux qui avaient accepté la parole se furent baptisés. Le nombre a augmenté d'environ 3000 âmes. Ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Et ils persévéraient dans les prières. Et vous savez ce que c'était comme conséquence de tout cela? C'est qu'ils avaient la crainte de Dieu. Et parce qu'ils avaient la crainte de Dieu, ils se faisaient par les apôtres des miracles, des signes et des prodiges. Que Dieu soit béni. Juste avant de terminer, voilà, j'aimerais maintenant, si possible, si on peut passer cette vidéo. Voilà. Donc, vous pouvez éteindre. Vous pouvez m'éteindre aussi, si vous voulez. L'agrandir. Merci. Ah, j'ai dit merci trop vite. C'est dans un truc. Voilà. Augmentez un peu le volume. Merci.
Famille, convivialité,
diversité,
fraternité,
la chaleur.
J'ai trouvé des frères et sœurs en Christ.
Ce groupe de maison, il m'apporte vraiment ce sentiment d'appartenir à une famille. Le groupe de maison, ça peut être un bon endroit pour accueillir les gens extérieurs de l'église. Parce que c'est un endroit où on amène vraiment les gens qu'on connaît, qu'on invite.
Il y a vraiment une relation d'amitié et je pense qu'elle est primordiale avant d'aller plus loin. Quand on va au temple, on fait face à plein de monde. On ne se sent pas forcément accueilli, parce qu'on n'est pas forcément repéré. Voilà, là, vraiment, on rentre. Et notre individualité, enfin l'individualité de la personne qui arrive, est prise en compte, vraiment.
Vous êtes devenu fan des groupes de maison, voici la recette. Trouvez une bonne dizaine de personnes dans un même quartier. Un ou plusieurs hôtes accueillants. Un animateur de groupe pour préparer les rencontres et faire circuler la parole. Un pasteur ou responsable d'église pour accompagner la démarche, un peu d'audace pour y inviter ses amis, une astuce entre nous, de bons cuisiniers pour se régaler en fin de séance. À éviter, devenir une église. Le groupe de maison n'a pas vocation à remplacer l'église locale, c'est un lieu de rencontre parmi d'autres. À ne pas manquer, laisser la parole libre. Il faut tout faire pour permettre à chacun de s'exprimer librement avec écoute, et bienveillance.
Voilà, merci. Donc, voilà, comme cela vous a été annoncé la semaine dernière, je vais inviter maintenant tous les leaders avec qui nous avons travaillé pendant plusieurs mois, pas seulement ceux et celles qui vont ouvrir leur maison, mais tous les leaders. Donc, je vous invite à vous approcher sur le devant maintenant. On va pouvoir vous présenter.